Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'envie de savoir et cette semaine, nous nous intéressons à une unité de mesure que nous utilisons tous les jours sans vraiment y penser, je parle du mètre. Défini pour la première fois sous la Révolution française, il a mis du temps à être adopté universellement. Aujourd'hui, le mètre sert de référence dans les sciences, l'industrie, les échanges commerciaux, bref, il est partout. Et nous fêtons en 2025 les 150 ans de la convention qui a permis d'harmoniser son utilisation au niveau international. Alors au fond, qu'est-ce qu'une unité de mesure? Pourquoi le mètre en particulier? Pour nous raconter sa longue histoire scientifique et politique, nous avons la chance de recevoir Christophe Salomon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, membre de l'Académie des sciences. Et vous présidez au sein de cette même académie le comité sciences et métrologie. Alors ce terme-là, métrologie, il n'est peut-être pas très connu de nos auditeurs. C'est quoi? C'est la science de la mesure?
Oui, exactement. Voilà un mot un peu méconnu du grand public. Hein. En quelques mots, qu'est-ce qu'une mesure finalement? C'est ça votre question. C'est exprimer une quantité physique comme une distance, hein, mais ça peut être aussi un volume, ça peut être aussi un poids. Ça peut être aussi un intervalle de temps avec une unité, de façon à ce qu'on puisse comparer ces mesures et définir des tas de choses. Ben, la distance entre Paris et Marseille, la distance entre deux points à la distance sur la Terre, des distances d'objets physiques, tout simplement. Quand vous allez au marché,
oui,
vous
dans
avez
la
besoin,
vie quotidienne aussi.
Dans la vie quotidienne, vous voulez acheter un kilo de pommes, ben vous aimeriez qu'il y ait un vrai kilo dans votre kilo de pommes. Et bien, figurez-vous que depuis très longtemps, les systèmes d'unités étaient très, très disparates.
Il y en avait énormément, il y en avait des milliers.
Oui, avant la Révolution française, il y avait des dizaines de milliers d'unités différentes. Alors, beaucoup d'entre elles étaient associées au corps humain.
Oui, la morphologie.
Le pied, la coudée.
Le pas.
Le
pouce.
Hein,
ouais. La toise aussi.
En anglais, la toise, exactement. Voilà. Alors évidemment, le corps humain, il n'est pas homogène. Hein. Il y a des grands et des petits, donc les mesures étaient quand même très, très disparates. Et c'est Louis XIV qui se tournait vers ses ministres et qui disait « Mais finalement, dites-moi, quelle est la vraie surface, quelle est la taille de mon
royaume ?»
Et bon, les gens étaient bien en mal de répondre proprement.
Alors, vous le disiez, avant le mètre, les unités de mesure étaient assez approximatives, elles différaient selon les villes aussi, ce qui était parfois source d'erreurs, de fraudes, parce qu'un système de mesure peu uniformisé peut avoir de graves conséquences. Vous étiez intervenu l'année dernière dans le podcast d'Étienne Gis, Petite Histoire de Science, dans lequel vous étiez revenu sur une erreur de mesure qui a été fatale pour un navire suédois qui a chaviré en 1628.
Ben oui, le Vasa, c'était le navire qui n'avait jamais navigué. Et une partie des erreurs, il y avait des erreurs qui venaient tout simplement du fait qu'on ne savait pas calculer la stabilité d'un navire. Et c'est M. Bouguer, un académicien français, qui a fait les premières équations pour démontrer où devait se trouver le centre de gravité d'un navire pour qu'il ne chavire pas. Mais en plus de ça, il a été retrouvé des unités de mesure qui étaient différentes pour ceux qui construisaient le bâbord et le tribord du navire, ce qui est quand même un petit peu différent. Il y avait presque 3 ou 4 cm d'écart entre leurs deux unités de mesure, des ouvriers qui travaillaient sur les planches et pour la partie droite et la partie gauche du navire.
Une utilisation maladroite de ces unités.
Voilà. Donc c'est un exemple, hein, mais il y en a eu plein d'autres.
Alors, j'en reviens au mètre. À quel moment l'unité du mètre fait-elle son apparition et qui décide de son impulsion?
Est-ce qu'il y a l'impulsion est venue au moment de la Révolution, de la Révolution française.
C'est un moment assez propice à la réforme.
Oui, parce que c'était la Révolution où on a tout remis en cause. Et en particulier, la population française était très irritée de ces unités très disparates, et en particulier associées à l'impôt, parce qu'on payait des impôts en fonction aussi de ces unités.
Hein.
Et c'était aussi un privilège de la noblesse, je crois, de toucher ces taxes. Et donc, évidemment, quand on peut jouer sur le système d'unités, on comprend bien. Et donc, la population française a dit « Oui, mais il faut harmoniser tout ça ». Et donc, ça a été pris très au sérieux à l'époque de la Révolution, et des grands noms, des grands académiciens d'ailleurs, comme Laplace, Monge, hein, Laplace, un grand mathématicien, Laplace, Monge, Condorcet, se sont penchés sur ce problème et ont pas mal travaillé sur, ben, finalement, comment définir le mètre, enfin une unité de longueur qui s'est avérée s'appeler le mètre, de façon universelle. C'était ça leur idée, et l'universalité de la Révolution française, c'est exactement ça. Et leur... On ne peut pas parler de logo à l'époque, mais c'était à tous les temps, à tous les peuples. Ce qui veut dire on veut une unité qui soit accessible au monde entier. Et donc là, c'était vraiment très visionnaire, parce qu'ils avaient bien compris que tous les échanges, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international et entre tous les peuples de toutes différentes races et origines, devaient pouvoir avoir accès aux mêmes unités. Donc ça, ça a été vraiment l'idée conductrice.
Et c'est la France qui initie...
Ah bah oui, oui, complètement, la Révolution française.
C'est
oui,
la France.
Et alors, ils ont hésité, en fait, hein, parce qu'il y a une autre façon de réaliser le mètre, c'est avec un pendule.
Oui, oui, il y a eu débat sur quel étalon choisir
voilà,
pour
quoi
définir
choisir,
le mètre.
Voilà, ouais. Quoi choisir. Et il y a eu un débat entre le fait de choisir un instrument qu'on fabrique soi-même, un pendule, et puis on va dire, on va prendre un pendule qui va battre une seconde, hein, telle que sa demi-période soit une seconde, et puis on va dire, bah, c'est la longueur du bras du pendule, et les formules du pendule étaient connues à l'époque, et ça, on va dire, ça c'est un mètre. C'était une définition. L'ennui, c'est que dans la formule du pendule, il y a aussi l'accélération de la gravité, de la pesanteur. Et donc, la pesanteur n'est pas la même ici à Paris ou à l'équateur. Et donc, ça ne fait pas le même mètre.
C'est pas d'où... cette idée qui a été retenue.
Voilà. Non, non. Et donc, c'est une bonne idée en soi. Mais comme on va le voir dans une minute, ça a donné lieu à des tas d'expéditions amusantes après. Hein. Et donc, ils ont proposé de choisir la taille de la Terre. Donc c'est là où la géophysique est intervenue. On a dit la Terre c'est quelque chose qui est quand même immuable, universel, et on va prendre une définition qui va être une partie du diamètre de la Terre. En fait, on a pris un méridien, on a tracé une sphère autour de la Terre, et puis on va dire, on va prendre un quart, un dix millième du quart du méridien
la
terrestre.
La longueur du quart du méridien
voilà,
terrestre.
Et ça fait à peu près un mètre, ça. Bon, mais il a fallu aller le mesurer aussi, le
comment
méridien.
Comment on mesure un méridien, un quart de méridien?
Donc c'est là qu'il y a une grosse expédition, en fait deux expéditions indépendantes qui ont été envoyées par l'Académie des sciences, hein, messieurs Méchain et Delambre, qui ont été chargés d'aller cartographier finalement cette longueur d'arc du méridien terrestre. Alors ils l'ont fait seulement entre Dunkerque et Barcelone, donc on fait une succession de pointées entre des points de référence, donc ça a pris un temps fou, ça a pris plusieurs années. Et donc, dans les archives de l'Académie, il y a de très beaux comptes rendus, très détaillés, avec toutes les mesures précises. Il y avait même eu des erreurs. Je crois que Méchain s'était un peu trompé à certains moments. Enfin, c'était toute une histoire. Et on est arrivé à la fin à quelque chose qui était assez proche de
assez précis,
ce que les gens utilisaient, qui était une demi-toise. Hein. C'est-à-dire la toise était autour de 2 mètres et le mètre est tombé comme ça. Avec le...
La toise, peut-être pour le rappeler, c'est quand on...
Oui, on écarte ses bras et on prend la distance entre le bout du bras droit et le bout du bras gauche, et ça fait à peu près...
C'est l'envergure, quoi.
Oui, c'est l'envergure, ce qui est assez proche de la taille aussi des gens. Il y a un rapport presque standard, mais pas universel, évidemment, entre la toise et la taille physique d'un individu.
Mais donc, cette fois-ci, on se rapporte non pas à un étalon aléatoire, mais un étalon qui se rapporte à un phénomène, on va dire, naturel. Enfin, voilà.
Universel, parce que n'importe qui peut aller mesurer le mètre autour de la Terre. Parce que ça n'a pas été facile du tout de faire accepter ça par la population. Et donc, on a réalisé des tas de mètres assez proprement, une fois qu'on a eu cette unité définie, qu'on a mis dans des lieux publics. Hein, il y en a dans beaucoup de villes de France, il y a une place où on peut venir mesurer la longueur de son tissu sur un mètre étalon qui est sur un bâtiment public. On en trouve dans pas mal de villes de France. Donc ça, c'est une façon de disséminer un petit peu la réalisation du mètre. Alors après, l'histoire est amusante parce que Napoléon lui-même est revenu en arrière. C'est-à-dire qu'après la Révolution, donc, la population était encore un peu récalcitrante et tout. Il est revenu en arrière en disant ils ont visé trop loin avec leur définition du maître. Et c'est simplement, je crois, encore 40 ans après, il me semble que c'est sous Louis-Philippe, et ça faudrait vérifier, qu'on est revenu à la définition du maître telle qu'on la connaît. Mmh. Donc, vous voyez, l'histoire se passe en décennies.
Après. Oui, il a mis du temps à être donc, accepté en France et puis aussi à l'échelle internationale. Voilà, en fait,
alors,
il
l'échelle
attendre...
internationale, ouais, en fait,
faut attendre plus
à l'époque de Napoléon, c'est amusant parce qu'il y a d'autres pays qui ont compris plus vite. Hein. C'est-à-dire que Napoléon était revenu en arrière et en fait, la Belgique, des pays nordiques, je crois.
Eux l'ont très vite adopté.
L'ont compris voilà, avant qu'on y revienne en France. C'est un peu. Voilà, c'est une ironie de l'histoire. Et donc là encore, la France a joué un rôle très important. C'était de se dire bah, maintenant, il faut mettre en place une unité internationale, c'est-à-dire un bureau international qui sera en charge du système d'unité, hein, donc le mètre et le kilogramme en particulier, et la seconde quelques années après, oui, parce que tout le monde avait compris que pour les échanges commerciaux au niveau mondial, donc c'est une des c'était premières nécessaire. Institutions internationales finalement, oui, bien avant l'ONU et des tas d'autres institutions, une institution qui a compris que le développement de l'humanité et des échanges commerciaux avaient besoin de règles.
Mais il a fallu quand même attendre un peu moins de 100 ans pour qu'il y ait cette convention qui soit signée.
Oui, donc 1875.
En 1875. Hein,
donc on est un peu moins de 100 ans après la Révolution après, et les premières idées.
Sur le maître. Et ce traité international, il est d'abord signé par 17 États. Donc l'idée, c'est vraiment d'unifier les mesures au niveau international, que ce soit avec le maître et puis aussi le kilogramme, comme vous l'avez dit. 17 États, ça reste quand même assez peu, mais ça va progressivement s'élargir.
Ah voilà, c'est ça. Ça s'est élargi au fur et à mesure des années. Et ouais, ça continue d'ailleurs aujourd'hui.
Hein. Encore aujourd'hui.
Oui, oui. Les partenaires du... Alors tout ça, maintenant, c'est plus codifié, mais maintenant, je crois qu'au total, il y a une centaine d'États qui sont impliqués, soit directement, soit associés. Enfin, il y a des petites subtilités. Parce qu'il faut payer aussi. Hein,
ah oui.
les États contribuent au financement, justement, de ce bureau international qui se trouvait à Paris, justement, puisque la France avait joué ce rôle important. Alors, c'est à Sèvres, c'est le pavillon de Breteuil à Sèvres, sur une colline magnifique, dans le parc de Saint-Cloud, ça domine la Seine.
Ça se visite? On peut aller le visiter.
Ah ben bien sûr, oui.
Quel est le rôle de l'Académie des sciences dans toute cette entreprise? Il me semble qu'elle a un rôle
Elle a joué un rôle très important au moment de la création et elle joue toujours un rôle important lors de la conférence générale des poids et mesures, cette conférence qui se tient tous les 4 ans, et c'est là que se prennent toutes les décisions concernant le système d'unité. Quand on change d'unité, par exemple, ce qui s'est produit en 2018, on a redéfini 4 des unités fondamentales du système international.
Il y en a combien des unités fondamentales?
Alors, il y en a sept.
Il y en a sept.
Il y en a sept au total.
Il y a quoi? Il y a le...
Alors, mètre, kilogramme, seconde. Et puis, il y en a des unités un peu dérivées. Donc, l'ampère, très important pour les mesures électriques, dont on peut dériver le volt. Hein. Ensuite, il y a la candela, qui est l'unité de luminance dans le visible, c'est-à-dire pour caractériser une lampe. Et c'est associé à la réponse de l'œil.
Hein, voilà.
Et la mole, pour la chimie, c'est-à-dire compter le nombre de particules élémentaires, des molécules, par exemple.
Et le Kelvin, il sert à
mesurer. Et le Kelvin, bien sûr, la température.
C'est pour la
température. Oui, j'allais quand même pas oublier ça. On a fixé aussi la constante de Boltzmann pour l'échelle de température.
Donc il y a 7 unités internationales voilà, différentes qu'il faut retenir dans ce système.
Voilà, c'est ça. Oui, qui sont utiles. Et alors, en fait, les théoriciens nous diraient en fait, qu'il n'y en a besoin que d'une. Mais ça, c'est un débat un peu plus profond.
Ça serait laquelle?
Ça serait l'unité de temps. On peut tout ramener conceptuellement à une seule unité, l'unité de temps.
Sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
Oui, absolument. Absolument. La définition de la seconde, voilà. Les horloges à césium, horloges avec les atomes froids en particulier.
Ouais.
C'est une autre histoire, ça.
C'est une autre histoire. Et puis, il y a aussi le kilogramme qui a une histoire.
Alors, le kilogramme, oui, lui aussi a une histoire amusante, parce qu'ils ont choisi initialement le gramme, et du coup, ils se sont vite aperçus que c'était moins utile que le kilogramme. Donc, c'est la seule unité où on dit la seconde, on ne parle pas de kiloseconde,
mais on
parle de millisecondes ou des choses comme ça. Et là, on a défini une unité, le gramme, et puis on a dit, ça serait plus utile d'avoir le kilogramme. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit le kilogramme.
– Alors là, j'en reviens au maître, puisque tout à l'heure, on a parlé de sa première définition avec le quart de méridien, mais cette définition-là a changé, et elle a même beaucoup changé. Je crois que c'est l'unité de mesure qui a vu...
Ah bah oui, complètement. Ben, on a abandonné le quart du 10 000e du méridien terrestre. Alors ça, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que c'était bien plus simple. On a fixé la vitesse de la lumière.
Oui.
Et on a défini le mètre comme la distance parcourue par la lumière dans le vide, une fraction qui est 1 sur 299 732 458
J'ai 792 millième, moi.
Oui, 792 458 millième de seconde. Et donc voilà, on avait mesuré la vitesse de la lumière, hein, et c'est pour ça qu'on a pris ce chiffre un peu compliqué. Et on n'a pas voulu que l'unité change. On aurait très bien pu arrondir à 300 000 kilomètres, oui. Ça aurait été bien plus simple. Mais non, il y a toujours ça. Quand on change de définition, c'est bien de ne pas faire de discontinuité entre la précédente définition et la suivante, de façon à ce que tout se passe de façon souple, parce que sinon, il y aura un changement brutal. C'est pour ça qu'on a pris cette valeur. C'était la meilleure valeur mesurée de la vitesse de la lumière. Et ben, on a dit tout simplement, maintenant, on va fixer la vitesse de la lumière et dire que le mètre, c'est cette distance parcourue pendant cette fraction. Donc, du coup, maintenant, la définition du mètre, elle est, d'une certaine façon, absolue. Hein, on a fixé C.
Elle ne changera plus parce qu'elle a changé beaucoup de
et
fois.
Et elle est reliée à la seconde. Et comme la seconde est mesurée maintenant avec entre 16 et 18 chiffres significatifs, on est bien pour mesurer les longueurs pour un bon moment.
Ouais. Et cette définition, cette nouvelle définition et dernière définition du mètre remonte à 1983.
Oui, c'est ça.
C'est cette date-là. Et donc elle ne changera...
Non, celle-là, elle ne changera pas. Non, oui.
Contrairement à la seconde, qui, elle, va être... Sa définition va être redéfinie.
Voilà,
est en train d'être redéfinie.
C'est en train. Donc il y a beaucoup de travaux et la science a besoin d'unités de très grande précision. Et c'est pour ça que le rôle du BIPM est très important, c'est de se tenir à jour et d'adapter le système d'unité pour qu'il reste utile. J'aime bien donner un autre exemple aussi, c'est dans le domaine médical. Il faut mesurer précisément les doses quand on traite le cancer par des radiations. Il ne faut pas se tromper sur les machines. Il y a eu des exemples malheureux dans ce cas-là. Donc là aussi, il faut qu'il y ait des normes qui soient respectées et que l'instrumentation respecte.
C'est ça le grand défi de la métrologie aujourd'hui, veiller à la précision et au respect
Ça, c'est maintenir le système d'unité à la pointe pour que tous les gens qui en ont besoin puissent se tourner vers ces instruments au niveau national et international qui servent de référence pour toutes les mesures industrielles en particulier.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet ?
Oui, alors je pourrais ajouter, je voulais donner un exemple, mais ça ne s'est pas présenté. C'est également l'importance des mesures et des mesures de précision pour le réchauffement climatique. On voit que le niveau de la mer monte, et bien ça, on le voit grâce à des mesures de très très grande précision par satellite. Et on voit l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, on a corrélé les deux ensemble, on mesure la température moyenne du globe maintenant, partout, tout autour de la Terre. Et là, on a une combinaison de mesures suffisamment précises qui nous indique que la planète se réchauffe. Les mesures sont partout. Et la notion que je pourrais peut-être ajouter pour finir, c'est à chaque mesure, il faut toujours penser à quelle est sa précision, quelle est son incertitude. Quand on se trompe d'un degré sur la température dans la pièce, ça n'a pas trop d'importance. Si on se trompe d'un degré quand on prend la température d'un bébé qui a de la fièvre, ça peut avoir de l'importance. Et donc, il faut toujours penser qu'il ne faut pas prendre les mesures comme du pain béni, toujours. Il faut se dire, ah oui, mais cette mesure, elle est dans un certain cadre, avec une incertitude, et il faut rapporter très souvent. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de dire, je fais cette mesure avec telle précision.
Et pour certains champs d'application, c'est vraiment crucial.
Ah oui, absolument.
Ouais. Merci beaucoup, Christophe Salomon. Je rappelle qu'un certain nombre de conférences filmées sur l'histoire de la métrologie sont disponibles. On les mettra toutes dans les liens de notre page. Et merci encore à vous.
Merci.
Au revoir.
Les podcasts de l'Institut de France.